RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par journal suivi documentaire L'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le relais de la torche des Jeux para-asiatiques aura lieu immédiatement. Selon le ministre indonésien de la Jeunesse et des Sports, l'Indonésie est prête à accueillir les Jeux olympiques d'été en 2032. L'affichage de l'ouverture et de la fermeture des Jeux para-asiatiques renforce l'aspect humain. L'Indonésie est prête à aider le Japon à organiser les Jeux olympiques 2020. Le ministre de la Jeunesse et des Sports fait des efforts pour que Pencaksilat participe aux Olympiades de Tokyo 2020. Charmi nous présente maintenant le journal complet. La ministre coordinatrice de l'autonomisation humaine et de la culture, Madame Puan Maharani, a déclaré qu'il y aurait un relais de la torche avant la mise en œuvre des Jeux para-asiatiques 2018 du 6 au 13 octobre 2018 à Jakarta. La ministre a déclaré lundi à Jakarta après la réunion de coordination de la mise en œuvre des Jeux para-asiatiques que le relais de la torche des Jeux para-asiatiques 2018 serait commencé par prendre le feu sur la montagne Marapen, Grobogan, au centre de Java. La torche sera ensuite transportée dans 8 villes d'Indonésie avant d'arriver à Jakarta pour assister à la cérémonie d'ouverture.
Dalam pelaksanaan Asian Para Games ini akan dilakukan torch relay sama seperti
dalam mise en œuvre des Jeux Para Asiatiques se déroulera le relais de la torche similaire aux Jeux Asiatiques, mais maintenant seulement dans 8 villes qui ont débuté le 5 septembre 2018. Comme les Jeux Asiatiques, le relais de la torche des Jeux para-asiatiques prendra également le feu sur la montagne de Merapen Grobogan, le centre de Java, et ensuite à Solo, puis à Ternate, à Makassar, et dans quelques autres villes jusqu'au 6 octobre, ouvrira les Jeux para-asiatiques auxquels participeront 41 pays du Comité national paralympique. Le ministre Puan a également déclaré que les Jeux para-asiatiques 2018 impliqueront 2800 athlètes et 1800 officiels qui participeront à 17 sports spéciaux sur les personnes handicapées. Ainsi, il est prévu que 500 médias étrangers couvriront l'événement. Le ministre espère que la mise en œuvre des Jeux para-asiatiques se dérouleront bien et sera un succès comme la mise en œuvre des Jeux asiatiques 2018. Le ministre indonésien de la Jeunesse et des Sports, M. Imam Nahrawi, estime que l'Indonésie était en mesure d'accueillir les Jeux olympiques en 2032. Il a dit à Wisma Kemenpora Jakarta lundi que l'Indonésie devrait être prête à accueillir les Jeux olympiques parce que le nombre de participants aux Jeux asiatiques était programme que celui des Jeux Olympiques. En outre, l'Indonésie possède également l'infrastructure et des ressources humaines de bonne qualité.
Ya, sudah barang pasti kita.
Bien sûr, l'Indonésie se préparera à accueillir les Jeux Olympiques en 2032 parce que notre site est le meilleur, Jakarta, Palembang, Java occidentale et d'autres régions. Nous avons des ressources humaines extraordinaires. Alhamdulillah, nous avons l'expérience des comités qui reçoivent les éloges de la communauté internationale. Nous avons une bonne équipe créative. Quantitativement, les participants olympiques sont plus petits que ceux des Jeux asiatiques. Les Jeux asiatiques, environ 15 000 athlètes et officiels. Les Jeux olympiques, environ 7 000. Cela veut dire que nous sommes très prêts. Auparavant, le président Joko Widodo avait exprimé leur désir de l'Indonésie d'accueillir les Jeux olympiques en 2032 lors de sa rencontre avec le président du Comité international olympique, Thomas Bach, et le président du Conseil olympique asiatique, Cheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, au palais Bogor Java West le week-end dernier. Le désir a reçu un accueil chaleureux de Bach. Avec le succès de l'organisation des Jeux asiatiques 2018, l'Indonésie a montré ses capacités et voir ce qui est nécessaire pour organiser les Jeux olympiques avec beaucoup de succès. Outre l'Indonésie, l'Inde aurait proposé d'accueillir les Jeux olympiques en 2032. Après le succès de l'organisation des Jeux asiatiques 2018, l'Indonésie a de nouveau accueilli l'événement sportif asiatique Asia Paragames. Le président du comité d'organisation des Jeux para-asiatiques en Indonésie 2018, au INAPGO, M. Raja Sabta Oktohari, a déclaré que l'ouverture de sports spéciaux pour les personnes handicapées en Asie ne sera pas moins vive que les Jeux asiatiques 2018. Raja Sabta Oktohari a dit récemment à Jakarta qu'il y aurait une différence entre l'ouverture des Jeux para-asiatiques et les Jeux asiatiques. C'est parce que les Jeux para-asiatiques ont un esprit différent de celui des Jeux asiatiques. Les Jeux para-asiatiques priorisent les aspects de l'humanité.
Opening closing, insyaallah kita nggak boleh terlalu timpang sama.
Insyaallah, l'ouverture et la clôture ne peuvent pas être trop différents des Jeux asiatiques parce que l'euphorie des Jeux asiatiques et le standard sont très élevés. Mais bien sûr, les Jeux asiatiques sont pleins de glamour car ils doivent élever l'esprit. Aux Jeux para-asiatiques, nous ajouterons une touche humaniste ou bien une touche humanité. Aux Jeux para-asiatiques, il y a une humanité que nous renforçons. Selon Raja Sabta Oktohari, les Jeux para-asiatiques qui se tiendront du 6 au 13 octobre ne sont pas conçus pour être une activité commerciale comme les Jeux asiatiques. Dès le début, les Jeux asiatiques 2018, dans le décret présidentiel, ont le but commercial. Et alors que les Jeux para-asiatiques mettent en avant le côté humanitaire, il a dit que les fonds qui seront utilisés pour l'organisation des Jeux para-asiatiques proviennent entièrement du budget de l'État. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie a offert d'aider le Japon à organiser les Jeux olympiques d'été en 2022 à Tokyo. L'aide est offerte sous forme de personnel créatif et bénévole aux volontaires qui étaient auparavant actifs dans les Jeux asiatiques 2018. Cela a été dit par le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Indonésie, M. Imam Nahrawi à Jakarta, lundi.
Bekal kami untuk meyakinkan dunia internasional bahwa produk anak negeri itu betul-betul keren dan bisa.
Nous avons offert au ministre des Sports du Japon lorsque nous nous rencontrerons dans ce bureau. Nous disons que lorsque les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 nécessitent notre personnel, notre équipe créative et nos bénévoles, nous allons vous préparer. 30 000 volontaires indonésiens est l'une des parties qui a attiré l'attention pendant les Jeux asiatiques 2018. Le travail acharné des volontaires, tels que servir les invités et les athlètes, répondre aux questions, donné des directives, coordonné l'arrivée et le départ des bus, a obtenu l'appréciation de différentes parties. En outre, l'équipe créative qui a ouvert et clôturé les Jeux Asiatiques 2018, dirigée par l'un des leaders de la télévision privée en Indonésie, Wisnu Tama, était considéré à établir une norme pour la tenue d'un tournoi sportif de classe mondiale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Imam Nahrawi, a déclaré que sa partie était optimiste que la réalisation de l'art martial ou pencaksilat en tant que les arts martiaux traditionnels indonésiens. Il a déclaré au journaliste Jakarta Langdi que pencaksilat sera à nouveau en compétition lors des Jeux Asiatiques 2022 qui se tiendront à Hangzhou, en Chine. En outre, jusqu'à présent, sa partie continue de communiquer avec le gouvernement du Japon par l'intermédiaire du Comité national olympique afin de pouvoir concourir en tant que sport d'exposition lors des Olympiades d'été de Tokyo 2020.
Kami sangat optimis dengan pencapaian Asian Games ini, pencaksilat akan dipertandingkan lagi.
Nous sommes optimistes quand à l'atteinte des Jeux Asiatiques, le pencaksilat sera de nouveau en compétition dans les Jeux Asiatiques 2022. En plus tard, il sera la première exposition de l'Olympiade de Tokyo 2020. Nous avons officiellement envoyé une correspondance et une proposition au gouvernement du Japon par l'intermédiaire du Comité national olympique. Nous avons officiellement proposé afin que pencaksilat soit concouru ou exposé à l'Olympiade 2020. Le secrétaire du ministère de la Jeunesse et du Sport, Gatot S. Dewabroto, a déclaré qu'il y avait certaines conditions pour que le pencaksilat puisse participer aux Olympiades. En plus de la phase d'exposition, pencaksilat doit également être reconnu officiellement par 80 pays membres du Comité national olympique. Ainsi, la reconnaissance continue d'être proposée au Comité international olympique. Pencaksilat a participé pour la première fois aux Jeux Asiatiques 2018 à Jakarta et à Palembang dans le sud de Sumatra. Cette branche sportive est devenue une mine de médailles pour le contingent indonésien. Les athlètes indonésiens du pencaksilat ont remporté 14 médailles d'or et une de bronze aux Jeux Asiatiques 2018. Cela a permis l'Indonésie d'atteindre totalement 31 médailles d'or et de se classer au 4e rang de médailles des Jeux Asiatiques 2018. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Troisième sommet Afrique-Chine à Pékin, le moment important au milieu de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ». Les dirigeants des pays africains et chinois se sont à nouveau réunis pour discuter à l'avenir de la coopération entre les pays de différents continents. La réunion et la discussion ont lieu au sommet du Forum de coopération Chine-Afrique qui a eu lieu depuis lundi. L'objectif du sommet est reflété dans le thème « Vers une communauté future plus forte ensemble via une coopération mutuellement bénéfique ». Le président chinois Xi Jinping, lors de la cérémonie d'ouverture, a présenté un discours très persuasif. Dans son discours, le président Xi Jinping a souligné le principe de son pays de coopérer avec d'autres pays. Entre autres, n'intervient pas dans d'autres pays partenaires et n'applique pas aucune condition politique. Un thème similaire a également été annoncé lorsque l'Afrique et la Chine ont commencé le sommet à Pékin en 2006. Et ont été suivis le deuxième sommet 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud. La Chine, comme l'a révélé le président Xi Jinping, mènera 8 actions majeures pour aider les pays africains pendant les 3 prochaines années.
L'une des huit actions consiste à encourager l'expansion des importations de produits de base africains et à soutenir la réalisation de l'objectif de sécurité alimentaire en Afrique en 2030. Pour les pays africains, la coopération avec la Chine est bien acceptée. Peut-être, à leur avis, la Chine est la principale alternative pour soutenir l'amélioration de leur économie. Ils peuvent bien voir que la Chine est la principale alternative pour soutenir leurs améliorations économiques. En tant que l'un des pays les plus forts dans le monde, l'opportunité de coopérer avec la Chine donne un nouvel espoir pour l'Afrique en tant qu'alternative outre l'Europe et les États-Unis. Pour la plupart des pays africains, l'amélioration des relations avec la Chine aurait pu donner un nouvel espoir. Parce que contrairement à l'Europe, la Chine n'était pas un pays qui avait colonisé le continent africain. Pour la Chine, l'accroissement et l'élargissement de la coopération dans le secteur économique et commercial sont devenus des facteurs importants pour trouver l'équilibre de la coopération multilatérale. La guerre commerciale lancée par les États-Unis, l'intensifiée par le gouvernement de Donald Trump, a eu un impact économique dans le pays le plus peuplé en Asie. Dans cette perspective, le 3e sommet sino-africain à Pékin est un nouvel élan, notamment pour la Chine qui cherche un nouvel équilibre dans le domaine économique à l'échelle nationale et mondiale. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons avec l'événement le 5 septembre 1945. Sultan Hamengkubuwono IX de Yogyakarta et Pakualam VIII ont déclaré qu'en Yogyakarta, le sultanat font partie de la République d'Indonésie. Yogyakarta a été construit en 1755 en même temps que la construction du royaume Yogyakarta-Hadiningrat par Sri Sultan Hamengkubuwono. Après la proclamation d'indépendance le 17 août 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX et Sri Paduka Pakualam VIII ont reçu la nomination en tant que gouverneur et vice-gouverneur de la province de Yogyakarta du président de la République d'Indonésie. Le 5 septembre 1945, le sultan a publié un mandat indiquant que la zone de Kesultanan et Pakualaman sont le district spécial qui fait partie de la République d'Indonésie conformément à l'article 18 de la Constitution 1945. L'autre information est sur le troisième ancien vice-président d'Indonésie, Adam Malik, est mort le 5 septembre 1984. La carrière d'Adam Malik a débuté en tant que journaliste et la figure du mouvement. Dans sa jeunesse, il a participé activement au mouvement national pour lutter pour l'indépendance indonésienne, entre autres par la création de l'agence de presse Antara. À l'ère du colonialisme japonais, Adam Malik est aussi actif la guérilla dans le mouvement de la jeunesse lutte pour l'indépendance. Avant de soutenir la direction de Soekarno-Hatta, il a mobilisé les personnes réunies sur le terrain Ikada, Jakarta. En 1962, il est devenu président de la délégation de la République d'Indonésie pour des négociations entre l'Indonésie et les Pays-Bas sur le territoire d'Irian West à Washington, D.C. En 1963, Adam Malik est entré dans les rangs du cabinet, le cabinet nommé Cabinet de Travail 4, en tant que ministre du Commerce. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Mandala Airlines a tombé après son décollage à Medan au nord de Sumatra. Mandala Airlines du vol d'Indonésie 091 est un avion Boeing 737-200 appartenant à Mandala Airlines qui s'est écrasé dans la région de Padang Bulan à Medan, en Indonésie, le 5 septembre 2005. L'accident est survenu après qu'un avion de 112 passagers et 5 membres d'équipage d'un vol Medan-Jakarta aient décollé quelques secondes de l'aéroport de Polonia à Medan. Le nombre de passagers tués était de 100 personnes et 49 personnes étaient à terre. 17 autres passagers auraient survécu. Parmi les victimes d'accident, il y a le gouverneur de Sumatra du Nord, Tengku Rizal Nurdin, qui avait prévu de rencontrer le président de la République d'Indonésie et l'ancien gouverneur de Sumatra du Nord, Raja Inal Siregar. Il y a aussi deux citoyens chinois, un ressortissant japonais et un malaisien. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement resserre les transactions en dollars américains sur les marchés d'échange. Les devises de plusieurs pays, y compris l'Indonésie, ont récemment continué à se déprécier par rapport au dollar américain. Le taux d'échange de roupiah par rapport au dollar américain a touché la position de 14 800 roupiah par dollar américain lundi. À ce propos, le même jour, le président indonésien Joko Widodo a rencontré plusieurs ministres et responsables institutionnels au palais présidentiel de Jakarta. Après la réunion à huis clos, la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que le gouvernement préparait une stratégie pour faire face aux conséquences négatives de la crise économique mondiale, notamment l'affaiblissement de roupiah contre le dollar américain. Selon Sri Mulyani, le gouvernement avec Banque Indonésie et l'autorité de services financiers réduiront les transactions en dollars sur le marché des sangs. Plus tard, les transactions soupçonnées d'être des spéculations sur la monnaie seront appliquées la sanction sévèrement. La ministre des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que les trois parties formuleraient la politique dans le forum du comité de stabilité du système financier. La ministre Sri Mulyani a expliqué que le gouvernement diviserait les deux types d'opérations sur les marchés d'échange, à savoir les transactions légales et illégales. Les transactions juridiques sont des demandes en dollars américains pour la nécessité des matières premières, des biens d'équipement et des paiements de dettes d'entreprise. Au-delà de cela, le gouvernement considère la demande de dollars américains sur le marché des sangs comme un acte de spéculation monétaire. Le resserrement des transactions sur le marché des sangs n'applique pas seulement les acteurs économiques ordinaires, mais aussi les entreprises publiques. Sri Mulyani a donné un exemple. PT Pertamina Persero et PT PLN Persero devaient examiner les besoins d'importation qui pourraient être suspendus pour que l'approvisionnement de dollars sur le marché des sangs reste disponible. Sri Mulyani n'a pas nié que cela vise à protéger les devises. Selon elle, le contrôle des sangs est la seule intervention à court terme effectuée par le gouvernement pour protéger roupiah qui est affecté par des sentiments extérieurs qui ne s'arrêtent jamais. De plus, les réserves de sang de l'Indonésie sont actuellement épuisées de 13,68 milliards de dollars américains par an afin de dissiper la dépréciation de roupiah par rapport au dollar américain qui atteint 9%. Par ailleurs, les efforts visant à renforcer les réserves de sang ne sont pas optimaux parce que le déficit de compte courant élargi. Par conséquent, les mesures qui peuvent être prises à très court terme est de contrôler les besoins en devises, car c'est effectivement ce qui peut être contrôlé. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Secrétaire, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique quotidienne Le Magazine Culturel. Ce soir, nous vous invitons à visiter la plage de Pandansari à Yogyakarta. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, La Voix d'Indonésie. Outre par l'intermédiaire de l'onde courte, vous pouvez aussi nous capter par l'intermédiaire de live streaming à www.voinews.id. Chers auditeurs, la résidence de Bantul à Yogyakarta est située à proximité de l'océan Indien. Donc, pas étonnant s'il y a beaucoup de belles plages à Bantul. Outre ses vagues et son sable noir, la destination touristique de Bantul, qui est facile d'accéder, fait de Bantul l'une des destinations favorites des touristes. L'une d'elles est la plage de Pandansari. La plage de Pandansari est située dans le village de Patehan, Gading Sari, Sanden, Bantul. La plage se trouve au groupe d'autres plages telles que les plages de Guacemara, de Samas, de Pandansimo et de Kuaru. L'emplacement est accessible depuis Yogyakarta avec une distance d'environ 30 km. Cela prend environ 1h30. Bien que l'accès à cet endroit soit assez facile, les transports en commun qui peuvent atteindre la plage de Pandansari ne sont pas encore disponibles. Il est donc préférable de conduire votre propre voiture ou de louer des véhicules à moteur. Chers auditeurs, le nom de Pandansari provient de la condition entourant la plage. À la plage, il y a beaucoup de pandanus sauvages. Bien que la plage ne soit pas aussi célèbre que les autres plages, l'état de la plage est plus propre par rapport aux autres plages qui l'entourent. Si vous visitez la plage le matin, vous verrez des gens qui pêchent à la plage. Les touristes peuvent également attraper des poissons, mais ils doivent faire attention car leur vague est grande et il y a aussi beaucoup de corail. La plage de Pandansari devient la seule plage à Yogyakarta qui possède un phare. Le phare de 40 mètres possède des escaliers circulaires accessibles jusqu'au sommet. Le nom du phare est Kalajiwa Masti, construit en 1996 et utilisé en 1997. Comme des signes et de l'éclairage pour les navires ayant navigué de nuit, pour entrer dans le phare, il ne sera facturé que 5000 rupiah. Satisfait de jouer et de voir la plage de Pandansari depuis le sommet du phare, vous pouvez vous reposer dans la forêt de pins qui s'étend pour fortifier la plage. Dans cet endroit, vous pouvez également profiter de vos repas ou selfie avec le bel arrière du fond. Ces pins créent également une nouvelle situation. Si vous visitez pendant la saison de pluie, ces pins auront des feuilles denses et vertes. Pendant la saison sèche, toutes les feuilles tomberont et laisseront de brindilles brunes. Être dans cette pinette, c'est comme apprécier la beauté de la musique japonaise. Secrétaire, c'est notre programme Le Magazine Culture aujourd'hui, intitulé La plage de Pandansari à Yogyakarta. À demain!
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est « Saya mulai membaik ». Je répète « Saya mulai membaik » ou en français « Je commence à récupérer ». Bonne écoute. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Saya mulai membaik » ou en français « Je commence à récupérer ». Tony et Dinda sont à la maison de Joko. Tony est malade. Hier, il a vu un médecin. Dinda veut voir sa condition aujourd'hui.
Bagaimana keadaanmu hari ini?
Mulai membaik walaupun masih lemas.
Masih sakit perut?
Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet.
Syukurlah.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Saya mulai membaik, ou en français, je commence à récupérer. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana keadaanmu hari ini? En français, comment vas-tu aujourd'hui? Mulai membaik. Mulai membaik. Qui signifie je commence à récupérer. Walaupun masih lemas. Walaupun masih lemas. Qui signifie bien que je sois encore faible. Masih sakit perut. Masih sakit perut. Qui signifie es-tu toujours mal à l'estomac? Sedikit. Tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet. Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet. Qui signifie un peu, je n'ai plus besoin d'aller à toilette plusieurs fois. Syukurlah. Syukurlah. Qui signifie bon. Dans le dialogue, pour poser des questions sur la condition de la personne malade, dites bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana keadaanmu hari ini? Qui signifie comment vas-tu aujourd'hui? Et si on vous le demande, vous pouvez répondre comme les exemples suivants. Saya merasa semakin sakit. Saya merasa semakin sakit. Qui signifie je me sens plus malade. Masih sama seperti kemarin, masih sakit. Masih sama seperti kemarin, masih sakit. Qui signifie c'est toujours comme hier, toujours malade. Mulai membaik. Mulai membaik. Qui signifie je commence à récupérer. Masih sedikit sakit, tetapi lebih baik daripada kemarin. Masih sedikit sakit, tetapi lebih baik daripada kemarin. En français, je suis encore un peu malade, mais aujourd'hui est mieux qu'hier. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Qui signifie j'ai récupéré. Saya sudah sehat kembali. Saya sudah sehat kembali. Qui signifie je suis en bonne santé. Ensuite, dans le dialogue, Wuzhang Tangde, Tony Pronong Selmo, bolak-balik. Dan La Presse, saya sudah tidak bolak-balik ke toilet. Ou en français, je n'ai plus besoin d'aller à toilette plusieurs fois. En plus du contexte de La Presse, le mot bolak-balik peut être utilisé dans d'autres contextes. Par exemple, fotokopi dokumen ini bolak-balik agar menghemat kertas. Ou en français, photocopier ce document dans les deux sens pour économiser du papier. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Bagaimana keadaanmu hari ini?
Mulai membaik, walaupun masih lemas.
Masih sakit perut?
Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet.
Syukurlah.
Après avoir écouté la conversation dans le titre et saya mulai membaik, ou en français je commence à récupérer, je vais vous donner un exercice en utilisant des mots que nous avons déjà appris. L'exercice est décrivez votre maladie en mentionnant quelle maladie que vous avez subie, quand, combien de temps, que ressentez-vous, où cherchez-vous un traitement, combien de fois par jour devez-vous prendre des médicaments. Par exemple, nama saya Danu, saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu, selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medika. Harus minum obat 3 kali sehari. Envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email. Il y aura un prix intéressant pour un euro gagnant. Et le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les amis de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. Encore avec moi, Tiwi, dans l'une des rubriques de la voix de l'Indonésie, Pelangi Nada, ou le magazine musical. Dans cette édition, je vais vous introduire les chansons de Hanin Dia. Elle est une jeune chanteuse née à Bogor le 21 février 2001, dont le nom complet est Hanin Dia Citaning Tias. Pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, je vous présente la chanson intitulée Asal Kau Bahagia, ou en français, l'important, c'est que tout soit heureux. Avant d'être chantée par Hanin Dia, cette chanson a été popularisée par le groupe Darmada. En général, l'arrangement de la version de Hanin Dia n'est pas très différent de la version originale. La différence ne se trouve que dans la musique d'accompagnement. Bonne écoute!
Kurangnya aku. dalam hidupmu hingga kau curangi aku. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hati.
Chers auditeurs, nous venons d'écouter la chanson intitulée « Asal kau bahagia » ou en français « L'important c'est que tu sois heureux » par Han India. Cette chanson fait partie du premier album de Han India intitulé « Cerita Han India » qui a été sorti le 30 mars 2018. Cet album contient 11 chansons dont deux sont des chansons recyclées, à savoir « Pupus » et Asalkan kau bahagia. Chers auditeurs, la chanson suivante que nous allons écouter s'intitule Bukan Untukku, qui raconte de quelqu'un qui a le cœur brisé parce que la main a trahi. Les auditeurs, voici la chanson de Han India dont le titre est Bukan Untukku ou en français Tu n'es pas pour moi.
Semudah itu kau tulis kembali kisah cinta yang berakhir luka. Hadirmu tak mungkin ku sambut lagi karena ada dia di hatimu. Dulu kau yang pergi meninggalkanku. Kini kau kembali sejuta mimpi. Pergilah, cintamu bukan untukku. Kembali padanya, tak perlu lagi kau ungkit cerita. Biar berakhir di sini, ku relakan kamu dengan dirinya.
Voilà la chanson intitulée « Bukan untukku » de Hanin Diah, la femme qui a 17 ans en 2018, a commencé à être connue par le public indonésien depuis 2014. À ce moment-là, Hanin Diah a participé à un événement de recherche de talent organisé par une chaîne de télévision privée nationale. Hanin Diah a également réussi à devenir le deuxième vainqueur de l'événement. Ensuite, Hanin Diah a souvent salué les Indonésiens par ses diverses vidéos téléchargées sur la chaîne de YouTube. Grâce à son talent de chanter, Hanin Diah compte 1,7 million de followers sur sa chaîne de YouTube. Chers auditeurs, nous allons terminer cette édition en écoutant deux chansons de Hanin Diah, dont les titres sont « Pupus » ou en français « Disparaître » et Yang Terbaik, ou en français Le Meilleur. Voici les deux chansons. Bonne écoute et à demain.
Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu. Padamu, namun kau masih kecilku bicara.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Jika harus berakhir.
C'est tout notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.